C'est l'heure de Séquence Parc. Séquence Parc, c'est l'émission du Parc National des Cévennes. Un rendez-vous à retrouver chaque mois avec des invités pour parler d'un sujet d'actualité qui concerne le parc.
L'émission dure plus d'une vingtaine de minutes. Elle est diffusée le mardi à 10h et la semaine suivante, le jeudi, à 8h30.
Séquence Parc sur le 107 FM.
Bonjour à tous. Nous allons parler tourisme ce matin avec une bonne nouvelle à vous annoncer. La réouverture du gîte Air de Côte approche à grands pas. Ce gîte incontournable du massif de l'Aigoual qui est situé à Bas-sur-Aile était fermé depuis 3 ans pour cause d'importants travaux de modernisation. Donc à compter des prochaines semaines, prochains mois, Julie et Hervé Michel, qui en sont les nouveaux gérants, accueilleront les randonneurs, les vététistes et les cavaliers. Alors pour en parler, je suis également accompagnée de Juliette Weinstein, chargée de mission tourisme au Parc National des Cévennes. Donc bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Alors Juliette, cette réouverture est attendue sur le territoire.
Je pense qu'elle est très attendue. Elle est attendue par les randonneurs et les randonneuses d'une part, tous ceux qui fréquentent et qui vont sur les Aigoual régulièrement. Je pense qu'Air de Côte leur manque. Je pense aussi qu'elle est attendue par les professionnels du tourisme qui travaillent autour des randonnées de l'Aigoual, parce que vous savez, quand il y a une étape qui manque sur un grand GR, et ben c'est tout le GR qui est un peu dans l'attente. Et Air de Côte se trouve à la croisée de pas mal de randonnées et de grandes itinérances. Et puis, cette ouverture, elle est attendue aussi par les transhumants, parce que Air de Côte, c'est une étape importante sur la Drail qui monte au sommet de l'Aigoual. Et je pense que les bergers et les bergères aussi seront contents de cette réouverture.
Donc c'est vraiment un carrefour, il est situé à un carrefour, donc c'est vrai que c'est un peu une halte obligatoire pour pas mal de monde. Et donc comme je le disais, il a été fermé depuis 3 ans pour cause d'importants de travaux de modernisation. Alors concrètement, en quoi consistaient ces travaux ?
Alors, les travaux à Air de Côte, au départ, c'est parti vraiment d'un souhait de moderniser, comme tu disais, le gîte et d'abord de le remettre aux normes parce qu'il y avait plein d'aspects où ça n'allait plus et il fallait refaire les choses. Et puis aussi de refaire un peu l'intérieur pour que ça corresponde mieux aux nouvelles attentes des itinérants. Alors, on a pensé à plusieurs choses. Déjà, on a changé le lieu de logement des gérants pour qu'il soit un peu plus intime et qu'il soit moins à la vue du public. Donc ça, on l'a changé aussi à l'intérieur du gîte. Et puis, certains des dortoirs, donc on garde 3 grands dortoirs, mais certains des dortoirs ont été transformés en chambres plus individuelles où on peut aller seul ou en couple ou en famille ou entre amis. Voilà, pour que ça corresponde un peu plus aux attentes. Et puis surtout, y a une grande salle d'activité qui va être présente, chose qui manquait avant à Air de Côte, parce que du coup, quand on n'est plus dans la saison, la haute saison de la randonnée, c'est aussi possible d'avoir des activités à Air de Côte, de faire des stages, d'avoir un lieu agréable et pratique pour faire des activités.
Voilà, il y a toujours donc une grande salle de restaurant également.
Et une grande salle de restaurant et une cuisine aussi neuve. Voilà, tout est prêt.
Donc en termes de couchage, ça fait combien de lits ?
36.
Voilà, on est sur 36 lits au total.
Répartis donc entre des dortoirs et il y a 5 chambres.
Et il y a 5 chambres, voilà, plus ou moins grandes, plus ou moins équipées pour accueillir des plus petits groupes.
Et au niveau de l'extérieur, donc qu'est-ce qui est mis à disposition
Il y a un bivouac de prévu quoi, pour les randonneurs et des parcs pour accueillir chevaux ou ânes, les équidés en général.
D'accord. Donc, ces travaux ont pris du temps. Il y a eu quelques surprises, on va dire, au niveau de la disponibilité de l'eau sur le site. C'est ce qui a retardé un peu, c'est ce qui retarde sa réouverture, ce qui a retardé en tout cas l'avancée des travaux. Alors là, donc, le gîte sera plus confortable, mais la sobriété sera de mise.
Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, donc, sur le temps où on s'est mis à fermer Aire de Côte hein, le premier été, on a commencé à s'apercevoir que la source du Pouzet, sur laquelle on puisait l'eau d'Aire de Côte depuis très longtemps, était vraiment très faible. Et du coup, on a mis en place des systèmes pour étudier ça de plus près. Et on s'est rendu compte qu'elle arrivait à des débits vraiment très, très réduits sur les périodes estivales là, de 2022-2023. À un point vraiment alertant. Et du coup, quand on a constaté ça, on s'est tout de suite mis en ordre de marche pour essayer de trouver des solutions. Mais en l'état, on s'est dit qu'on ne pouvait pas ouvrir l'an dernier parce qu'on n'avait pas l'assurance qu'il y aurait assez d'eau sur Aire de Côte. Tout ça, bien sûr, dû au changement climatique qui va quand même très très vite sur les Goëlles. Du coup, on a fait deux choses, nous, les équipes du parc. On s'est concentré sur deux objectifs. Le premier, c'était de réduire au maximum la consommation d'eau sur le site par les utilisateurs. Donc, on a beaucoup réfléchi, on a allé voir comment ils faisaient dans les refuges de très haute montagne, parce qu'ils sont déjà concernés par ce sujet, ou des gîtes qui fonctionnent dans le Vercors sans eau, ou dans les gorges du Verdon. On est allé voir un petit peu, et puis on s'est mis à calculer très finement quelle pourrait être la consommation à Aire de Côte, et la consommation minimale. Et au vu de tout ça, on a commencé poste par poste à essayer de voir comment on pouvait réduire. Donc évidemment, un des postes principaux, c'est les toilettes. Et du coup, on a passé une grande partie des toilettes en toilettes sèches. Et puis l'autre partie, vraiment avec un double réseau qui est alimenté en eau non potable pour ne plus jamais utiliser d'eau potable pour les toilettes. Voilà, sur les douches, on a mis en place un système un peu ludique avec des bracelets rechargeables, mais surtout, c'est des douches très économes. Donc, on espère que ça va permettre aussi de beaucoup réduire la consommation. Et puis après, il y a beaucoup de choses aussi qui vont être faites par les nouveaux gérants sur une utilisation sobre de l'eau pour la cuisine, pour le linge, etc. Ça va être beaucoup aussi dans les usages. Du coup, on s'est concentré vraiment sur cette partie consommation. Et puis aussi, mes collègues ont cherché comment on pouvait quand même sécuriser suffisamment d'eau pour pouvoir tenir sur les temps de sécheresse qui vont être de plus en plus importants. Parce qu'il faut savoir que la source du Pouzet, elle arrivait à un stade où on ne pouvait plus puiser dedans légalement. Quoi. On arrivait en dessous des seuils.
Du seuil.
Donc, il faut pouvoir tenir quand on ne peut plus puiser dans le Pouzet l'été. Et donc, ils ont repris un peu les différents systèmes de stockage qui existaient déjà. Il y avait une DFCI qui marchait plus, etc. Pour faire un stockage de à peu près 120 mètres cubes qui permettrait de tenir ces mois de sécheresse avec une consommation très réduite sur site. On espère, dans les périodes de sécheresse, être à moins de 1 mètre cube par jour pour être vraiment... pour pouvoir vraiment tenir ces moments-là.
D'accord, et hors sécheresse ?
Et hors sécheresse. Alors, on estimait là que le gîte rempli, avec vraiment 40 personnes en comptant les gérants, etc., on peut, si on n'avait rien mis en place, on était autour de 5 mètres cubes d'eau par jour. Et là, selon nos estimations, on serait plus en dessous de 2 mètres cubes par jour.
D'accord.
Donc, des grandes économies d'eau.
Et donc, à l'automne dernier, le parc a lancé un appel à candidature hein, pour trouver les nouveaux gérants du gîte. Alors, 5 candidatures ont été reçues. Donc, vous avez auditionné, enfin, un jury a auditionné 3 candidats. Et il a donc sélectionné Julie et Hervé Michel, ici présents. Alors, qu'est-ce qui a retenu votre attention ?
Ce qui a retenu notre attention, c'est le parcours de Julie et Michel, et c'est aussi leur grande attention justement sur les aspects d'écologie et de tourisme durable. Et vu tous les engagements qu'ils ont eus et qu'ils vont nous raconter, on leur fait confiance pour justement être assez exemplaires sur le volet écologique de Aire de Côte. Et on les a trouvés voilà, totalement dans l'esprit des gens qu'on cherchait pour tenir ce site emblématique.
Donc Julie et Hervé, je vous laisse la parole. Je précise juste, donc vous venez d'Ariège en fait, là vous venez de déménager, c'est encore en cours. Hein.
Oui, c'était notre dernier domicile, oui. Et peut-être je laisse Julie commencer la présentation.
Ok. Donc moi, avant tout, c'est la santé qui m'intéresse. Et c'est la santé, en fait, qui m'a amenée avec Hervé à créer un lieu dans la montagne il y a quelques années, où on a déjà fait de l'accueil de randonneurs. En ayant une réflexion, on était aussi dans une commune où, de temps en temps, au printemps, on était en sécheresse. Et donc on a déjà eu des réflexions sur l'énergie, l'eau et comment accueillir de façon à ce qu'il y ait du sens et en même temps à ce que ce soit possible en fait et que ce soit pas dommageable pour le lieu où on était. Il faut dire aussi qu'on était dans une commune où à 90% c'était des maisons de vacances. Donc c'était pour nous particulièrement important aussi de créer du lien avec les personnes autour de nous et un peu de mélanger les publics entre les vacanciers, les touristes et les habitants du village pour qui c'était aussi important d'avoir quelque chose au niveau local. Et donc pour pouvoir faire ça, on a un petit peu touché à tout et ça nous a beaucoup plu. Donc on a en même temps dû s'occuper vraiment de la structure touristique, mais aussi de l'autre côté, on a eu des ânes, on a fait toutes sortes d'autres choses. On a eu une grande activité culturelle aussi, qui était vraiment le moyen en fait, de créer le ciment entre ces différentes personnes. Et peut-être je te laisse, Hervé, parler davantage de ce qu'on a fait en Ariège, qui était la continuation en fait, pour nous de ce qu'on avait fait auparavant.
Alors en Ariège, on est venu pour continuer notre activité qu'on avait dans les Alpes. Et en fait, les choses ont évolué un petit peu, ont changé. On s'est orienté plus vers la paysannerie. En fait, on a fait l'expérience d'agriculture. En fait, moi, je suis fils de paysan à la base. Et puis mon père était un des précurseurs du bio dans les années 70. Donc j'avais un petit peu déjà ça dans mes gènes. Et puis du coup, on s'est lancé dans l'élevage de chèvres, j'ai créé une fromagerie, j'ai expérimenté à faire du fromage, on a fait un petit peu de l'accueil, on a accueilli des jeunes un petit peu en difficulté, on a fait pas mal d'expériences, et tout axé un petit peu sur l'écologie, sur un autre moyen, une autre manière de vivre en fait. En Ariège, il y a beaucoup de gens qui s'installent pour chercher une autre manière de vivre, et on était tout à fait à notre place là-bas, quoi. Dans les Alpes, on était peut-être un petit peu les moutons noirs avec notre manière de vivre, alors que là, on était des moutons noirs toujours, mais dans un troupeau de moutons noirs. Donc c'était intéressant, quoi. À l'origine, mon parcours, il était dans l'hôtellerie de luxe, donc c'était un petit peu aux antipodes de ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui, quoi. Mais ça m'a permis de maîtriser, faire des expériences un peu poussées dans ce domaine. Et aujourd'hui, voilà, l'hôtellerie de luxe, c'est loin derrière moi. Aujourd'hui, je m'oriente en fait vers une hôtellerie plutôt durable et exemplaire en matière d'écologie, d'éthique, oui, voilà, comme ça.
Et c'est vrai que c'est aux antipodes, c'est votre expérience passée qui vous a fait dire ben non, mais je veux faire l'inverse, oui. Ça ne correspond pas à mes valeurs.
Alors, il y a deux choses, oui. Une première, c'était que j'étais arrivé au bout de l'expérience où je me suis dit, bon, ça n'a plus aucun sens de travailler dans cette direction, de cette manière. Je maîtrise un métier, mais c'est à l'opposé de mes valeurs, quoi. Et puis sur mon parcours, j'ai rencontré la culture tibétaine, ou plutôt la médecine tibétaine. Et du coup, à un moment donné, j'ai lâché l'hôtellerie pour étudier la médecine tibétaine. Et pendant en voyageant en Europe et dans le monde pour approfondir ce sujet, Et par la suite, j'ai réussi à mettre mes deux compétences, à joindre mes deux compétences pour gérer des lieux qui correspondaient plus à mon éthique de vie, quoi.
Vous disiez, c'est la santé qui m'a amené en Ariège, donc vous avez également peut-être fait une formation, pas similaire, mais en tout cas...
Si, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On s'est rencontrés en Inde, il y a maintenant, c'était en 2002, donc ça fait il y a longtemps. Et on s'est rencontrés justement au cours de formation de médecine traditionnelle tibétaine. Pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Je pense qu'effectivement, j'en aurai pour toute ma vie encore à continuer mes études de médecine traditionnelle tibétaine. C'est un système de santé qui est ancien, qui propose des clés dans de nombreuses directions, que ce soit au niveau aussi de l'alimentation, du lieu de vie, ça prend en compte en fait tout ce qui est l'environnement aussi. Et du coup, pour moi, c'est quelque chose qui m'a énormément rapprochée aussi de ma culture première, en fait. Moi, je viens des montagnes, et de retrouver une culture, en fait, qui met en valeur vraiment tous ces savoirs qui ont été importants dans les montagnes, pour moi, c'est quelque chose qui... Voilà, qui est porteur. Aujourd'hui, je suis formatrice d'une technique de mouvement de yoga tibétain. En fait, yoga, c'est pas vraiment le bon mot, mais c'est des mouvements de guérison. Et je vois, en fait, à quel point, avec peu de choses, en fait, parce que finalement, la médecine traditionnelle tibétaine, c'est une médecine de nomades. Donc, souvent, ils n'avaient pas les plantes ou pas, voilà, en route, vis-à-vis avec les moyens du bord. Et pour moi, c'est ça qui est extraordinaire, en fait, c'est d'avoir accès à quelque chose qui peut s'utiliser, quelles que soient les circonstances. En fait, s'il n'y a pas quelque chose, on va trouver exactement autre chose qui va permettre d'aller soigner le même point. Et cette sobriété-là, pour moi, c'est quelque chose qui me ramène à ce que j'ai vécu enfant dans les montagnes. Ouais.
Qu'est-ce qui vous a poussé à candidater pour le JT Air de Côte, de passer de l'Ariège à Bas-sur-Aile, à la Lozère?
Alors, en fait, on a découvert par hasard, si on peut l'exprimer comme ça, quoi. Sur Facebook, il y a un petit message qui est passé, là, Julie, qui m'a montré. On était dans une période où on se re-questionnait sur ce qu'on allait faire. Est-ce qu'on allait développer notre activité en Ariège, ou est-ce qu'on allait aller vers de nouvelles aventures? Et en fait, en voyant ce message, on a regardé un petit peu où c'était. Parc national, 1100 mètres d'altitude. Il y avait quand même des critères qui nous interpellaient, quoi. Et puis on s'est dit, bon, ben, il y a une visite dans 3 jours, pourquoi pas, hein, on va jeter un œil. Et puis effectivement, on s'est dit, ouais, la région, elle est extraordinaire. Et puis le lieu, il nous permettrait de mettre en place tout ce qu'on voulait mettre en place en Ariège, en fait. Sauf que là, c'est clé en main. On arrive, il y a tout qui est tout prêt, tout qui est... Voilà, à peu près. Bon, il n'y a jamais de lieu parfait, quoi, mais ça apportait quand même beaucoup de choses qu'on recherchait. Et on s'est dit, ok, on tente, on fait un dossier, et puis on verra bien. Si c'est pour nous, on sera pris, puis sinon, ça sera pour quelqu'un d'autre.
Alors j'avoue que le dossier, on n'avait pas du tout anticipé que ça allait nous prendre autant de temps. On a vraiment travaillé, et en même temps, au fur et à mesure qu'on approfondissait ce dossier, eh bien, on prenait conscience, en fait, de l'engagement, en fait, qu'on était en train de prendre. Et plus on approfondissait, plus ça nous plaisait.
Je crois aussi que ça nous a permis de définir ce qu'on avait envie de faire.
Se projeter.
Se projeter,
et ça répondait totalement à la question qu'on avait, parce que nous, on a des enfants qui deviennent grands. Alors moi, j'en ai 6 quand même, donc sur 20 ans, ce qui fait que ça fait très très longtemps que j'ai été avant tout maman. Et là, le petit, il a 16 ans, et on se retrouvait avec une structure où c'était l'espace privé qui prenait plus de place et l'espace professionnel qui était petit. Et ben, en fait, on se rendait compte qu'il nous fallait exactement le contraire, ce qu'on va trouver à Air de Coute.
Il fallait inverser la tendance. Et qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place, justement? Quels sont vos projets, vos envies? Comment vous souhaitez faire vivre le lieu, à la fois que ben, le faire vivre, peut-être pour accroître la fréquentation, mais aussi le faire vivre, le diversifier? Enfin, quelles sont vos envies?
Ouais, peut-être la première idée, c'est de montrer une autre forme de tourisme plus responsable, plus durable, où, par exemple, des toilettes sèches ne seront pas vues comme quelque chose de bizarre, mais quelque chose peut-être d'innovant, de nouveau, et puis se rendre compte à quel point, aujourd'hui, l'eau, par exemple, est quelque chose toujours plus important et qu'il faut apprendre à le respecter. La restauration aussi, on peut amener des petites variantes un petit peu différentes. On va essayer d'axer la restauration sur des choses, une nourriture adaptée aux randonneurs, mais peut-être avec un accent un petit peu plus sur la durabilité, quoi.
Et puis du terroir local.
Bien sûr, terroir. Et quoi d'autre? Une idée, Julie?
Il y a une salle d'activité,
oui,
j'imagine, qu'en fonction des compétences. Voilà.
La salle d'activité est un outil formidable pour nous pour organiser des choses autour de nos compétences, mais aussi ouvert sur d'autres personnes extérieures qui rechercheraient un lieu dans un cadre en pleine nature, en fait.
Mmh. C'est vraiment aussi l'expérience qu'on avait fait déjà par le passé, en fait, dans une structure où on était avec une saison touristique qui était assez courte. En fait, on s'est rendu compte que on pouvait vraiment augmenter le temps de saison en organisant des événements qui avaient du sens, en fait, et qui permettaient de, quelque part, diversifier ce qu'on proposait. Et on était assez fiers, je dois avouer, de voir aussi que c'est pas seulement des gens qui venaient de l'extérieur qui allaient venir pour ces moments-là, mais c'était aussi nos voisins, des gens vraiment de la région. Et ça, pour nous, c'est quelque chose d'important, en fait. C'est de pas devenir un lieu qui soit uniquement dédié aux vacanciers, mais vraiment qui permette un mélange, en fait, de ces différents publics.
Mmh. Alors pour avoir beaucoup voyagé tous les deux aussi, on s'est rendu compte que la différence, les choses différentes, pour nous, ça a beaucoup d'intérêt. On recherche les choses nouvelles, les choses différentes. Et on a envie aussi de montrer des choses différentes avec notre parcours. Et on espère que ça intéressera aussi d'autres personnes.
Mmh. On a aussi fait une expérience de randonnée au long cours pendant 4 mois avec, à l'époque, 3 de nos garçons et 2 ânes. On a marché depuis plus ou moins le nord de Milan jusqu'au sud de Toulouse. Et cette randonnée aussi, ça nous a... Alors c'est vrai, Hervé disait qu'on a pas mal voyagé. Moi, je pense que cette traversée, et en particulier de la France, ça a été le voyage le plus exotique que j'ai jamais fait. Et c'est pas tellement, c'est pas tellement la variété des paysages, ou bien que ce soit absolument extraordinaire, mais c'est vraiment aussi de se confronter à des personnes très très différentes, et toutes ces rencontres, en fait, ça a été absolument essentiel dans ce voyage. Et c'est vrai que nous, ça nous donne aussi maintenant peut-être d'autres éléments quand on est face à des randonneurs qui ont des besoins. On a une meilleure idée, en fait, de ce qui est important quand on voyage. Et c'est vrai que la plus grande découverte qu'on avait faite pendant ces 4 mois de randonnée, c'était de se rendre compte qu'au fond, on avait juste 3 impératifs. C'était manger, trouver un endroit pour dormir et avancer. Et finalement, la vie, c'est assez simple. Hein, quand on se...
quand ça se résume à trois mots.
Voilà. Quand on... Mais c'est super important. Et dans un endroit comme Aire de Côte, où la météo peut être assez capricieuse, bah, c'est d'autant plus important de pouvoir offrir de la sécurité dans les moments où ça va être nécessaire.
Donc l'idée, c'est bien, voilà, c'est ce qu'il faut retenir. C'est pas un gîte que pour les touristes. Voilà, l'idée, c'est de soit un lieu de rencontre pour les habitants, pour les visiteurs, et sur une période qui ne se limite pas aux vacances, en fait.
Voilà, et peut-être un lieu un peu atypique où on ne va pas rencontrer peut-être les mêmes choses qu'ailleurs. Et voilà ce qui fera l'intérêt, en fait, de découvrir une nouvelle approche, une vue peut-être différente. Voilà, et on espère contenter tout le monde.
Très bien. Mais sur ces derniers mots, je vous propose de terminer cette émission et on se retrouve très bientôt.
C'était Séquence Parc. Séquence Parc, c'est l'émission du Parc National des Cévennes, un rendez-vous à retrouver chaque mois avec des invités pour parler d'un sujet d'actualité qui concerne le parc.
L'émission dure plus d'une vingtaine de minutes. Elle est diffusée le mardi à 10h et la semaine suivante, le jeudi, à 8h30.
Séquence Parc sur le 107 FM.